Charles Dickens, Barnabé Rudge. Traduction de Monsieur Bonhomé. Chapitre 30. Il y a malheureusement des gens dont un proverbe populaire dit que si vous leur accordez un pied, ils en prennent quatre. Sans citer les illustres exemples de ces héroïques fléaux de l'humanité, dont l'aimable chemin dans la vie a été tracé depuis leur naissance jusqu'à leur mort à travers le sang, le feu et les ruines, et qui semblent n'avoir existé que pour apprendre à l'humanité que, comme l'absence du mal est un bien, la terre purgée de leur présence peut être considérée comme un lieu de bénédiction, sans citer d'aussi puissants exemples, contentons-nous de celui du vieux John Willett. Le vieux John Willett, ayant empiété un bon pouce, grande mesure, sur la liberté de Joe, et lui ayant rogné une grande aune de permission d'ouvrir la bouche, devint si despotique et si superbe que sa soif de conquête ne connut plus de bornes. Plus le jeune Joe se soumit, plus le vieux John se montra absolu. L'aune fut bientôt réduite à néant. On en vint aux pieds, aux pouces, aux lignes. Et le vieux John continua de la manière la plus plaisante à tailler dans le vif de ses réformes, à retrancher tous les jours quelque chose sur la liberté de parole ou d'action de son esclave, enfin à se conduire dans sa petite sphère avec autant de hauteur et de majesté que le plus glorieux tyran des temps anciens ou modernes qui ait jamais eu sa statue érigée sur la voie publique. De même que les grands hommes sont excités aux abus de pouvoir, quand ils ont besoin d'y être excités, ce qui n'arrive pas souvent, par leurs flatteurs et leurs subalternes, ainsi le vieux John fut poussé à ses empiétements d'autorité par l'applaudissement et l'admiration de ses compères de l'arbre de mai. Chaque soir, dans les intermèdes de leurs pipes et de leurs pots de bière, ils secouaient leurs têtes et disaient que M. Willett était un père de la bonne vieille roche anglaise, qu'il n'y avait pas à lui parler de ses inventions modernes de douceur paternelle, ni des méthodes du jour, qu'il leur rappelait exactement à tous ce qu'était leur père quand ils étaient petits garçons, et qu'il faisait bien, qu'il vaudrait mieux pour le pays qu'il y eût plus de pères comme lui, et que c'était pitié qu'il n'y en eût point davantage, avec beaucoup d'autres remarques originales de la même nature. Puis il condescendait à faire comprendre au jeune Joe que tout cela était pour son bien, et qu'il en serait reconnaissant un jour. M. Cobb, en particulier, l'informait que, quand il avait son âge, son père lui donnait un paternel coup de pied, un horion sur les oreilles, ou une taloche sur la tête, ou quelque petit avertissement de ce genre, comme il aurait fait toute autre chose, et il remarquait en outre, avec des regards très significatifs, que s'il n'avait pas reçu cette judicieuse éducation, il n'aurait jamais pu devenir ce qu'il était. Et la conclusion n'était que trop probable, car il était devenu le chien le plus hargneux de toute la compagnie. Bref, entre le vieux John et les amis du vieux John, il n'y eut jamais un infortuné garçon si rudoyé, si malmené, si tourmenté, si irrité, si harcelé, ni si abreuvé du dégoût de la vie que le pauvre Joe Willett. C'en était venu au point que c'était à présent l'état de choses officielles et légales. Mais comme le vieux John avait un vif désir de faire briller sa suprématie aux yeux de M. Chester, il se surpassa ce jour-là et il aiguillonna et échauffa tellement son fils et héritier que, si Joe n'avait pris avec lui-même l'engagement solennel de garder ses mains dans ses poches lorsqu'elles n'étaient pas occupées d'une autre façon, il est impossible de dire ce qu'il en aurait fait peut-être. Mais la plus longue journée à son terme, et M. Chester finit par monter sur son cheval qui était prêt devant la porte. Comme le vieux John ne se trouvait pas là en ce moment, Joe, qui dans le comptoir méditait sur son triste sort et sur les perfections innombrables de Dolly Varden, courut dehors pour tenir l'étrier à son hôte et l'aider à monter. M. Chester était à peine en selle et Joe était en train de lui faire un gracieux salut quand le vieux John, plongeant du porche dans la cour, saisit son fils au collet. « Pas de cela, monsieur, » dit John, « pas de cela, monsieur. Il ne faut point rompre votre engagement. Comment osez-vous, monsieur, franchir la porte sans permission? Vous cherchez à vous sauver, n'est-ce pas, monsieur, comme un parjure? Que prétendez-vous, monsieur ?»« Lâchez-moi, père, » dit Joe d'un air suppliant lorsqu'il aperçut un sourire sur la figure du visiteur et qu'il observa le plaisir que lui procurait sa mésaventure. « C'est trop fort aussi. Qui est-ce qui songe à se sauver ?»
Qu'est-ce qui songe à se sauver ? Cria John en le secouant. « Eh mais, c'est vous, monsieur ! C'est vous, petit polisson, monsieur !» ajouta John en le colletant d'une main et employant l'autre à faire au visiteur un salut d'adieu. « C'est vous qui voulez vous glisser comme un serpent dans les maisons et susciter des différends entre de nobles gentlemen et leurs fils ? Direz-vous que ce n'est pas vous, hein ? Taisez-vous, monsieur !»
Joe ne fit pas d'effort pour répliquer. Sa honte était consommée. La dernière goutte allait faire déborder le vase. Il se dégagea de l'étreinte de son père, lança un regard courroucé à l'hôte qui partait et retourna dans l'auberge. « Si ce n'était pour elle, pensa Joe en se jetant à une table dans la salle commune et laissant tomber sa tête sur ses bras, si ce n'était pour Dolly, car je ne pourrais supporter l'idée qu'elle pût me croire un mauvais sujet, comme elle ne manquerait pas de le dire si je me sauvais de la maison, l'arbre de mai et moi, nous nous séparerions cette nuit. » Le soir étant alors arrivé, Salomon Daisy, Tom Cobb et le long Parks étaient réunis dans la salle commune d'où ils avaient été témoins par la fenêtre de toute la scène. Monsieur Willett, les joignant bientôt après, reçut les compliments de ses compagnons avec un grand calme, alluma sa pipe et s'assit parmi eux. « Nous verrons, messieurs, dit John après une longue pause, qui est le maître ici et qui ne l'est pas. Nous verrons si ce sont les petits polissons qui doivent mener les hommes ou si ce sont les hommes qui doivent mener les petits polissons.
« C'est vrai aussi, dit Salomon Daisy, avec quelques inclinations de tête d'un caractère approbatif. Vous avez raison, Johnny. Très bien, Johnny. Bien dit, monsieur Willett. Bravo, monsieur !»
John porta lentement ses yeux sur l'approbateur, le regarda longtemps et finit par faire cette réponse qui consterna l'auditoire d'une manière inexprimable. « Quand je voudrai des encouragements de vous, monsieur, je vous en demanderai. Je vous prie de me laisser tranquille, monsieur. Je n'ai pas besoin de vous, j'espère. Ne vous frottez pas à moi, s'il vous plaît. »
« Ne prenez point mal la chose, Johnny. Je n'ai pas eu de mauvaise intention, » dit le petit bonhomme pour sa défense.
« Très bien, monsieur, » dit John, plus obstiné que de coutume après sa dernière victoire. « Ne vous occupez pas de ça, monsieur. Je saurais bien me tenir tout seul, je pense, monsieur, sans que vous vous donniez la peine de me soutenir. »
Et après cette riposte, monsieur Willett, fixant ses yeux sur le chaudron, tomba dans une sorte d'extase tabachique. L'entrain de la société, se trouvant singulièrement amorti par la conduite embarrassante de leur hôte, on ne dit rien de plus pendant longtemps, mais enfin M. Cobb prit sur lui de remarquer, en se levant pour vider les cendres de sa pipe, qu'il espérait que Joe, dorénavant, apprendrait à obéir à son père en toutes choses, ayant vu ce jour-là que M. Willett n'était pas un homme avec lequel on pût badiner. Et il ajouta qu'il lui recommandait, poétiquement parlant, de ne pas s'endormir sur le rôti. Et vous, je vous recommande en revanche, dit en levant les yeux Joe, dont la figure était toute rouge, de ne pas m'adresser la parole.
Taisez-vous, messieurs, cria M. Willett en se réveillant soudain et se retournant. Je ne me tairai pas, père, cria Joe en frappant du poing sur la table et si fort que les verres et les pots dansèrent. C'est bien assez dur de souffrir de vous pareilles choses. Je ne les endurerai plus de tout autre, quel qu'il soit. Ainsi, je le répète, M. Cobb, ne m'adressez pas la parole.
Eh, mais qui êtes-vous donc ? Dit M. Cobb d'un air narquois, pour qu'on ne puisse vous parler, hein, Joe ?
À cela, Joe ne répondit pas, mais avec un sombre hochement de tête qui n'était pas du tout de bon augure, il reprit sa position antérieure. Il l'aurait conservé paisiblement jusqu'à la fermeture de l'auberge au bout de la soirée. Mais M. Cobb, stimulé par l'étonnement que causait à la société la présomption du jeune homme, riposta en lui décochant quelques brocards. C'était trop, la chair et le sang ne purent supporter cela. En un seul moment s'accumulèrent la vexation et le courroux de bien des années. Joe bondit, renversa la table, tomba sur son ennemi invétéré, le gourma de toute sa force et de toute son adresse, et finit par le lancer avec une rapidité surprenante contre un monceau de crachoirs dans un coin. M. Cobb, y plongeant la tête la première avec un fracas terrible, resta étendu de tout son long parmi les ruines, abasourdi et sans mouvement.
Alors le vainqueur, n'attendant pas que les spectateurs ne le complimentassent sur son triomphe, se retira dans sa chambre à coucher et, se considérant comme en état de siège, il entassa contre la porte tous les meubles transportables en guise de barricade. « Voilà qui est fait, » dit Joe en s'asseyant sur son bois de lit et essuyant sa figure échauffée. « Je savais que j'en viendrais là. L'arbre de mai et moi, il faut que nous nous séparions. Je suis un vagabond, un coureur. Elle me liait pour toujours. Tout est perdu. »
Chapitre 31. Réfléchissant sur sa malheureuse destinée, Joe resta assis et écouta longtemps. Ils s'attendaient à chaque instant à entendre l'escalier crier sous leurs pas ou à être salués des sommations de son digne père, exigeant qu'il capitulât sans condition et se rendît tout de suite. Mais ni voix ni pas ne vint jusqu'à lui, et quoique des échos de portes confirmés de gens qui allaient et venaient dans les chambres avec précipitation, résonnant de temps en temps à travers les grands corridors et pénétrant au fond de sa solitude reculée, lui fissent comprendre qu'il y avait en bas un bouleversement extraordinaire, aucun son plus rapproché ne troubla le lieu de sa retraite, qui semblait encore plus paisible à cause de ces bruits lointains et qui était triste et sombre comme la cellule d'un ermite. Il fit de plus en plus noir. Le gothique ameublement de cette chambre, espèce d'hôpital des invalides pour les meubles de la maison, devint indistinct et fantastique. Les chaises et les tables, qui étaient dans le jour d'aussi honnêtes estropiés que possible, prirent un caractère équivoque et mystérieux. Et un vieux lépreux de paravent en cuir terni de l'Inde, avec bordure d'or, qui jadis avait tenu en respect plus d'un courant d'air dangereux et servi de rempart à plus d'une joyeuse figure, le regardait d'un air rébarbatif et spectral et se tenait de toute sa hauteur dans les coins qu'on lui avait assignés, semblable à quelque maigre fantôme qui attendait qu'on lui adressât des questions. Un portrait en face de la fenêtre, portrait bizarre d'un vieux général aux yeux gris dans un cadre ovale, semblait cligner de l'œil et s'assoupir à mesure que le jour baissait, et enfin, quand la dernière des faibles taches lumineuses du jour s'évanouit, il parut fermer les yeux de bon cœur et s'endormir solidement. Il y avait là un tel silence et un tel mystère autour de toute chose que Joe ne put s'empêcher d'en suivre l'exemple. Il se livra donc au sommeil, comme tout le reste, et rêva de Dolly, jusqu'à ce que l'horloge de l'église de Chigwell sonna 2 heures. Personne ne vint encore. Les bruits lointains de la maison avaient cessé. Au dehors, tout était également tranquille, sauf lorsqu'aboyait par hasard un chien à large gueule, ou lorsque le vent agitait les branches des arbres. Il regarda mélancoliquement de la fenêtre ouverte chaque objet bien connu qui gisait, endormi à l'obscure lueur de la lune. Puis, se traînant vers le siège qu'il avait quitté, il pensa à l'algarade de la veille, tant qu'après y avoir pensé longtemps, il lui sembla qu'un mois s'était écoulé depuis cette scène. Tandis qu'il s'assoupissait, méditait, allait à la fenêtre et regardait au dehors, la nuit se passa. Le vieux paravent rébarbatif, les chaises et les tables, ses contemporaines, commencèrent lentement à se révéler dans leurs formes accoutumées. Le général aux yeux gris recommença à cligner de l'œil, à bâiller, à se réveiller, et enfin, quand il fut réveillé tout à fait, il se montra mal à son aise, transi de froid et l'air hagard à la triste lumière grisâtre du matin. Le soleil perçait déjà au-dessus des arbres de la forêt. Déjà s'étendait à travers le brouillard onduleux de brillantes barres d'or quand Joe jeta de la fenêtre sur le sol un petit paquet avec son fidèle bâton et se prépara à descendre lui-même. Ce n'était pas une tâche bien difficile car il y avait là tout du long tant de saillies et tant de bouts de chevron que cela faisait presque un escalier rustique d'où il ne restait plus à faire qu'un saut de quelques pieds pour être en bas. Joe se trouva bientôt sur la terre ferme, son bâton à la main, son paquet sur l'épaule, et il leva les yeux pour regarder le vieux arbre de mai, peut-être pour la dernière fois. Il ne l'apostropha pas d'un adieu solennel comme aurait pu le faire un vétéran de rhétorique. Il ne le maudit pas non plus, car il n'avait pas dans son cœur le moindre fiel contre quoi que ce fût au monde. Il éprouvait au contraire
plus d'affection et de tendresse à son égard qu'il n'en avait jamais éprouvé dans toute sa vie. Il lui dit donc de tout son cœur « Dieu vous bénisse ». Comme souhait d'adieu, se détourna et s'éloigna. Il se mit en route d'un bon pas. Il était plein de grandes pensées. Il voulait être soldat, mourir dans quelque contrée étrangère où il y eut beaucoup de chaleur et beaucoup de sable, et laisser en mourant Dieu sait quelles richesses inouïes de ses parts de prise à Dolly, qui serait fort affectée lorsqu'elle viendrait à le savoir. Rempli de ces visions de jeune homme, quelquefois ardente, quelquefois mélancolique, mais qui avait toujours la jeune fille pour point central, il poussa en avant avec vigueur jusqu'à ce que le tapage de Londres retentît à ses oreilles et que l'enseigne du Lion Noir se dressa à ses yeux. Il n'était alors que 8 heures, et le Lion Noir fut très étonné en le voyant entrer, les pieds couverts de poussière à cette heure matinale, et sans la jument grise encore, pour lui tenir au moins compagnie. Mais Joe, ayant demandé qu'on lui servît à déjeuner le plus tôt possible, et ayant donné, quand le déjeuner eut été placé devant lui, d'incontestables témoignages d'un appétit excellent, le lion lui fit, comme de coutume, un accueil hospitalier et le traita avec ses marques de distinction auxquelles, à titre de pratique régulière et de membre de la franc-maçonnerie du métier, il avait tous les droits du monde. Ce lion, ou cet aubergiste, car on appelait ainsi l'homme du nom de la bête, pour avoir prescrit à l'artiste qui avait peint son enseigne de mettre tout ce qu'il avait de talent d'invention et d'exécution à faire passer avec autant d'exactitude que possible dans les traits du roi des animaux dont elle portait l'effigie, une contrefaçon de sa propre figure, était un gentleman presque égal par la promptitude de son intelligence et la subtilité de son esprit au puissant John lui-même. Mais voici en quoi consistait entre eux la différence, c'est que, tandis que l'extrême sagacité et l'extrême finesse de M. Willett résultaient des efforts d'une nature spontanée, le lion semblait devoir la moitié de ses moyens à la bière, dont il absorbait de si copieuses gorgées que la plupart de ses facultés étaient complètement noyées et entraînées par ce liquide, sauf une seule, la grande faculté du sommeil qu'il conservait à un degré de perfection surprenant. Le lion, qui craquait au vent au-dessus de la porte de la taverne, était donc, à dire la vérité, un lion assoupi, apprivoisé, sans vigueur, et comme ses représentants sociaux d'une classe sauvage offrent habituellement un caractère conventionnel, étant peints en général dans des attitudes impossibles et avec des couleurs qui ne sont pas de ce monde, les plus ignorants et les plus mal informés du voisinage croyaient fréquemment voir en lui le portrait véritable de l'aubergiste en costume officiel pour quelque grande cérémonie funèbre ou pour un deuil public. « Quel est donc le gaillard qui fait tant de bruit dans la salle voisine ?» dit Joe lorsqu'il eut déjeuné et qu'il se fut levé et brossé. « Un sergent recruteur, » répliqua le lion. Joe tressaillit involontairement. Il rencontrait là tout juste l'objet de ses rêvasseries tout le long du chemin. « Et je souhaiterais, » dit le lion, « qu'il fût bien loin d'ici. Ces gens-là et leur bande font beaucoup de bruit, mais ne consomment guère. Des cris et du tapage, tant qu'on en veut, mais de l'argent, bonsoir. Votre père n'aime pas ces chalands-là, je le sais. » Peut-être ne les aimait-il guère, en effet, en aucune circonstance. Mais peut-être, s'il eût pu savoir ce qui se passait en ce moment dans l'esprit de Joe, les eût-il moins aimés que jamais. « Il recrute pour un beau régiment, » dit Joe, en donnant un coup d'œil à un petit miroir rond suspendu dans le comptoir. « Oui, je crois, » répliqua l'hôte. « C'est à peu près la même chose, n'importe le régiment pour lequel il recrute. Je me suis laissé dire qu'il n'y a pas grande différence entre un bel homme et un autre quand ils attrapent une balle dans le ventre. »« Tout le monde n'attrape pas une balle, » dit Joe. « Non, » répondit le lion, « pas tout le monde. Et ceux-là qui sont tués, en supposant que leur affaire soit bientôt faite, sont les plus heureux, dans mon opinion. » Ah, riposta Joe, vous n'avez donc nul souci de la gloire ? Souci de quoi ? Dit le lion. De la gloire ? Non, répliqua le lion avec une suprême indifférence, je n'en ai nul souci. Vous avez raison en cela, monsieur Willett, quand la gloire viendra ici me demander quelque chose à boire et me changera une guinée pour le payer, je ne le lui donnerai pour rien. Voyez-vous, monsieur, je crois qu'une auberge qui veut faire ses affaires fera aussi bien de prendre un lion noir pour enseigne que non pas les armes de la gloire. » Ces remarques n'étaient pas du tout encourageantes. Joe sortit du comptoir, s'arrêta à la porte de la salle voisine et écouta. Le sergent décrivait la vie militaire
on ne faisait que boire, disait-il, excepté qu'il y avait de grands intervalles pour manger et faire l'amour. Une bataille était la plus belle chose du monde quand votre côté la gagnait et les Anglais gagnaient toujours. « Supposons que vous seriez tué, monsieur, » dit une voix timide dans un coin. « Eh bien, monsieur, supposons que vous le seriez, » dit le sergent. « Qu'arrive-t-il alors ? Votre pays vous aime, monsieur. Sa Majesté le roi Georges III vous aime. Votre mémoire est honorée, révérée, respectée. Tout le monde a de la tendresse pour vous, de la reconnaissance pour vous. Votre nom est couché tout au long dans un livre au ministère de la guerre. Dieu me donne, gentlemen, ne devons-nous pas tous mourir un jour ou l'autre, hein ?» La voix toussa et ne dit plus rien. Joe entra dans la salle, une demi-douzaine de gars s'y étaient réunis et groupés, ils écoutaient d'une oreille avide. L'un d'eux, un charretier en blouse, avait l'air d'hésiter encore, quoique disposé à s'enrôler. Le reste, qui n'était nullement disposé à en faire autant, le pressait vivement de prendre ce parti, voilà bien les hommes, appuyaient les arguments du sergent et ricanaient ensemble. « Il n'y a pas besoin, mes amis, dit le sergent, qui était assis un peu à l'écart, à boire sa liqueur, d'en dire bien long pour des lurons résolus. » Ici, il jeta un regard sur Joe. « Mais voilà le vrai moment. Je ne veux pas vous enjôler. Le roi n'en est pas réduit là, j'espère. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas du sang de navet, c'est un sang jeune et bouillant. Nous ne prenons point des hommes de pacotille. Il nous faut des gens d'élite. Je ne viens pas vous compter des gosses d'écoliers, mais Dieu me donne, si je vous citais tous les fils de gentlemen qui servent dans notre corps, après quelques peccadilles peut-être ou quelques castilles avec leur papa. » Ici, son regard se portant encore sur Joe et avec tant de bonhomie que Joe lui fit signe de sortir, il sortit tout de suite.
« Vous êtes un gentleman, sacrebleu !» lui dit-il d'abord en lui donnant une claque sur le dos. « Vous êtes un gentleman déguisé, moi aussi, jurons-nous amitié !»
Joe ne fit pas exactement comme cela, mais lui donna une poignée de main et le remercia de sa bonne opinion.
« Vous désirez servir ?» dit son nouvel ami. « Vous servirez, vous êtes fait pour le service, vous êtes né pour être un des nôtres, que voulez-vous boire ?»
« Rien pour le moment, répliqua Joe avec un faible sourire. Je ne suis pas encore tout à fait décidé. »
« Un garçon plein d'ardeur comme vous, qui n'est pas décidé !» cria le sergent. « Tenez, laissez-moi sonner, vous serez décidé dans une demi-heure, j'en suis sûr. »
« Vous êtes bien dans l'erreur, répliqua Joe, car si vous sonnez ici où je suis connu, vous allez faire évaporer en un clin d'œil ma vocation militaire. Regardez-moi en face. Vous me voyez bien, n'est-ce pas ?»«
Si je vous vois, répliqua le sergent avec un juron, jamais plus beau garçon, ni plus propre à servir son roi et son pays, n'a frappé mes yeux, » ajouta-t-il en intercalant une épithète de troupier.
« Je vous remercie, dit Joe. Je ne vous ai pas demandé cela pour avoir de vous un compliment, mais je vous remercie tout de même. Ai-je l'air d'un poltron ou d'un menteur ?» Le sergent répondit avec beaucoup de protestations flatteuses qu'il n'en avait pas l'air et que si son propre père à lui, sergent, était là soutenant qu'il en avait l'air, il passerait de bon cœur son épée au travers du corps du vieux gentleman et croirait faire un acte méritoire. Joe lui exprima combien il lui était obligé et continua. « Vous pouvez vous fier à moi et compter sur ce que je vous dis. Je crois que je m'enrôlerai ce soir dans votre régiment. » Si je ne le fais pas maintenant, c'est que je n'ai pas besoin de prendre avant ce soir un engagement qui ne pourra plus être rétracté. Où vous trouverai-je donc dans la soirée ?
Son ami répliqua avec quelque répugnance et après beaucoup d'inutiles instances pour régler immédiatement l'affaire que son quartier général était à la bûche tortue dans Tower Street où on le trouverait éveillé jusqu'à minuit et dormant jusqu'au lendemain à l'heure du déjeuner. « Et si je vais vous rejoindre ?»
« Il y a un million à parier contre un que j'irai. Quand m'emmènerez-vous de Londres ?» demanda Joe.
« Demain matin, à 8h30, répliqua le sergent. « Vous partirez pour l'étranger, pour une contrée où tout est soleil et péage, le plus beau climat du monde. »«
Partir pour l'étranger, » dit Joe en donnant une poignée de main, « c'est précisément ce que je souhaite. Vous pouvez m'attendre. »
« Vous êtes un des lurons qu'il nous faut !» cria le sergent, retenant la main de Joe dans l'excès de son enthousiasme. « Vous êtes un luron à faire vite votre chemin. Je ne dis pas ça par jalousie ou parce que je voudrais diminuer en rien l'honneur de vos succès, mais si j'avais été élevé et instruit comme vous, je serais à présent colonel. »«
À d'autres, l'ami, dit Joe, je ne suis pas si nigaud que vous croyez. Il y a nécessité quand le diable vous pousse, et le diable qui me pousse, c'est une bourse vide et des contrariétés à la maison. Pour l'instant, adieu.
Vive le roi et le pays !»
cria le sergent en agitant son drapeau. « Vive le pain et la viande !» cria Joe en faisant claquer ses doigts, et c'est ainsi qu'ils se séparèrent. Il avait très peu d'argent dans sa poche, si peu en vérité que, après avoir payé son déjeuner, car il était trop honnête et peut-être aussi trop fier pour laisser l'écho à la charge de son père, il ne lui restait qu'un penny. Il eut néanmoins le courage de résister à toutes les affectueuses importunités du sergent, qui le conduisit jusqu'à la porte avec beaucoup de protestations d'éternelle amitié et le pria en particulier de lui faire la faveur d'accepter un seul et unique shilling d'avance sur son engagement. Rejetant à la fois ses offres d'espèces et de crédit, Joe s'en alla comme il était venu, avec son bâton et son paquet, déterminé à passer sa journée le mieux qu'il pourrait et à se rendre chez le serrurier le soir à la brune. Car il ne voulait pas, après tout, partir sans dire un mot d'adieu à la charmante Dolly Varden. Il sortit de Londres par Islington et poussa jusqu'à Highgate. Il s'assit sur bien des pierres, devant bien des portes, mais il n'entendit pas les cloches lui dire de s'en retourner. C'était bon du temps du noble Whittington, la fine fleur des marchands, mais les cloches ont fini par avoir moins de sympathie pour l'humanité. Elles ne sonnent que pour de l'argent et dans des occasions solennelles. Le nombre des immigrants s'est accru, des vaisseaux quittent la Tamise pour de lointaines régions, n'ayant pas d'autre cargaison de la poupe à la proue, et les cloches restent silencieuses. Elles ne sonnent plus ni supplications ni regrets. Elles sont accoutumées au départ et se sont faites aux usages du monde. Joe acheta un petit pain et réduisit sa bourse, sauf une différence à la condition de la célèbre bourse de Fortunatus, laquelle contenait toujours la même somme, quels que fussent les besoins de son possesseur privilégié. Dans nos temps plus réalistes, où les fées sont mortes et enterrées, il y a encore une foule de bourses qui ont la même vertu. Le total qu'elles contiennent s'exprime en arithmétique par un cercle vicieux qu'on peut additionner ou multiplier par sa propre somme sans changer le résultat du problème, résultat clair et net s'il en fut jamais, 0 multiplié par 0 égale 0. Le soir arriva enfin, avec le sentiment de désolation d'un homme qui n'avait ni feu ni lieu et qui était complètement seul dans le monde pour la première fois. Il se dirigea vers la maison du serrurier. Il avait différé jusqu'à 7 heures, sachant que Madame Varden allait quelquefois seule ou accompagnée seulement de Miggs entendre des sermons du soir et espérant ardemment que ce serait peut-être une de ces soirées de culture morale. Il se promena 2 ou 3 fois de long en large devant la maison de l'autre côté de la rue et, comme il revenait sur ses pas, il entrevit soudain une jupe qui flottait à la porte. C'était celle de Dolly. À quel autre pouvait-elle appartenir? Il n'y avait que sa robe pour avoir cette tournure. Il s'arma donc de tout son courage et suivit la jupe dans l'atelier de la clé d'or. Comme il boucha le jour de la porte en entrant, Dolly se retourna pour regarder. « Oh, quelle figure! Ma foi, je ne regrette pas, » pensa Joe, « d'être tombé sur ce pauvre Tom Cobb. Elle est 20 fois plus belle que jamais. Elle épouserait un lord, qu'elle lui ferait honneur. » Il ne le dit pas, il se contenta de le penser. Peut-être était-ce écrit aussi dans ses yeux. Dolly fut joyeuse de le voir, mais comme elle était si fâchée que son père et sa mère se trouvassent absents, Joe la supplia de ne point s'en tourmenter du tout. Dolly hésitait à le conduire dans la salle à manger, car il faisait presque noir. En même temps, elle hésitait à causer debout dans la boutique où il faisait encore clair et où l'on était vu de tous les passants. Ils étaient arrivés comme ça jusqu'à la petite forge, et Joe tenait la main de Dolly dans la sienne. Il n'en avait pas le droit car Dolly n'avait entendu lui donner qu'une poignée de main, comme s'ils étaient là devant quelque hôtel mythologique pour se marier, si bien que c'était la position la plus embarrassante du monde. « Je suis venu, dit Joe, vous dire adieu. Vous dire adieu, je ne sais pas pour combien d'années. Peut-être pour toujours, je pars pour l'étranger. » C'était précisément ce qu'il n'aurait pas dû dire. Il parlait là comme un gentleman, maître de sa personne, libre d'aller, de venir, de courir le monde, selon son bon plaisir. Lorsque le galant carrossier avait juré, pas plus tard que la veille au soir, que Mademoiselle Varden le retenait dans des chaînes à Damantine, lorsqu'il avait positivement déclaré, en termes express, qu'elle le faisait mourir à petit feu, et que dans une quinzaine, plus ou moins, il s'attendait à faire une fin décente et à laisser son établissement à sa mère. Dolly dégagea sa main et dit « Vraiment ?» faisant observer, sans reprendre haleine, qu'il faisait bien beau ce soir. Bref, elle ne trahit pas plus d'émotion que l'enclume même de la forge.
Je n'ai pu partir, dit Joe, sans venir vous voir. Je n'en avais pas le courage. Dolly témoigna qu'elle était bien fâchée qu'il lui prit tant de peine. C'était une si longue course, et il devait avoir tant de choses à faire. Et comment allait M. Willett, ce bon vieux gentleman? Est-ce là tout ce que vous avez à me dire? S'écria Joe. Tout, bonté divine, et sur quoi donc avait compté ce garçon-là? Elle fut obligée de prendre son tablier d'une main et de jeter les yeux sur l'ourlet d'un bout à l'autre pour s'empêcher de lui rire au nez, car ce n'était pas un effet de son trouble ou de sa stupéfaction, ou pas du tout. Joe avait peu d'expérience en affaires d'amour, et il n'avait aucune idée de la manière dont les jeunes demoiselles varient selon les temps. Il s'attendait à retrouver Dolly juste au point où il l'avait laissée lors de ce délicieux voyage nocturne, et il n'était pas plus préparé à un tel changement qu'à voir le soleil et la lune changer de place. Il avait été soutenu toute la journée par l'idée vague qu'elle lui dirait certainement « ne partez pas » ou « ne nous quittez pas » ou « pourquoi partez-vous » ou « pourquoi nous quittez-vous » ou qu'elle lui donnerait quelque petit encouragement de ce genre. Il avait même admis comme possible qu'elle fondît en larmes, qu'elle se précipita dans ses bras ou qu'elle tomba en pâmoison sans un mot, sans un signe au préalable. Mais il avait été si loin de penser à rien qui approchât d'une pareille ligne de conduite qu'il ne put que la regarder avec un silencieux étonnement. Dolly, cependant, en revenait au coin de son tablier, mesurait les côtes, effaçait les plis et restait aussi silencieuse que lui-même. Enfin, après une longue pause, Joe lui dit au revoir. « Au revoir, » dit Dolly avec un sourire aussi agréable que s'il allait dans la rue voisine faire un tour avant de revenir souper. « Au revoir. »« Voyons, » dit Joe en étendant ses deux mains. « Dolly, chère Dolly, » « ne nous séparons pas comme cela. Je vous aime tendrement, de tout mon cœur et de toute mon âme, avec autant de sincérité et de sérieux que jamais homme aima une femme dans ce monde, je le crois. Je suis un pauvre garçon, comme vous savez, plus pauvre à présent que jamais car j'ai fui de la maison paternelle, ne pouvant souffrir plus longtemps d'être traité de la sorte. Il faut que je fasse mon chemin sans aucune aide. Vous êtes belle, admirée, vous êtes aimée de chacun, vous êtes dans l'aisance et heureuse. Puissiez-vous toujours l'être. Le ciel me préserve de compromettre votre bonheur. Mais dites-moi un mot de consolation. Je n'ai pas le droit de le réclamer de vous, je le sais, mais je vous le demande, parce que je vous aime, et que le moindre mot de vous sera pour moi un trésor que je garderai chèrement pendant toute ma vie. Dolly, ma chère Dolly, n'avez-vous rien à me dire? Non, rien. Dolly était coquette de sa nature. Et de plus, enfant gâté. Elle n'avait pas du tout envie qu'on vînt la prendre d'assaut de cette manière-là. Le carrossier aurait fondu en larmes, il se serait agenouillé, il se serait fait des reproches, il aurait crispé ses mains, frappé sa poitrine, serré sa cravate à s'étrangler, et fait toutes sortes de poésies. Joe n'avait pas besoin d'aller à l'étranger, il n'avait pas le droit d'en être capable, et puisqu'il était dans les chaînes adamantines, il ne pouvait plus disposer de lui. « Je vous ai dit au revoir, » dit Dolly, « et encore deux fois, ôtez tout de suite votre bras, monsieur Joseph, ou j'appelle Miggs. »« Je ne vous ferai pas de reproches, » répondit Joe. « C'est ma faute, sans doute. J'ai cru quelquefois que vous ne me méprisiez pas, mais c'était folie de ma part. Je dois être méprisé de quiconque a vu la vie que j'ai menée, de vous plus que de toutes les autres. Que Dieu vous bénisse. » Il était parti, ma foi, mais parti pour de bon. Dolly attendit un peu de temps, pensant qu'il allait revenir sur ses pas. Elle se coula près de la porte, regarda dans la rue, à droite et à gauche, autant que l'obscurité croissante le lui permit, rentra dans la boutique, attendit encore un peu plus, monta en fredonnant un air, s'enferma au verrou, laissa tomber sa tête sur son lit, et pleura, comme si son cœur eût voulu éclater. Et cependant, ces natures-là sont faites de tant de contradictions que si Joe Willett était revenu ce soir, le lendemain, la semaine suivante, le mois suivant, elle l'aurait traité absolument de la même façon, quitte à pleurer encore après avec la même douleur. Elle n'eut pas sitôt quitté la boutique qu'on aurait pu voir surgir de derrière la cheminée de la forge une figure qui était déjà sortie deux ou trois fois de la dite cachette sans être vue, et qui, après s'être assuré qu'il n'y avait personne, fut suivi d'une jambe, d'une épaule, et ainsi graduellement, jusqu'à ce que parut en son entier la forme bien accusée de M. Tappertit, avec un bonnet de papier gris, négligemment enfoncé sur un des côtés de sa tête et les deux poings fièrement plantés sur les hanches. « Mes oreilles m'ont-elles trompé ?» dit l'apprenti. « Où est-ce que je rêve ? Dois-je te remercier, ô fortune, ou te maudire, lequel des deux ?» Il descendit gravement du lieu élevé qu'il occupait, prit son morceau de miroir, le planta contre la muraille sur le banc habituel, frisa sa tête et regarda ses jambes avec attention. « Si ce sont là des rêves, » dit Sim en les caressant, « je souhaite aux sculpteurs d'en avoir de pareils et de les façonner sur ce moule à leur réveil. Mais non, c'est bien une réalité. Le sommeil ne vous fait pas des membres comme cela. Tremble, Ouillette, tremble de désespoir. Elle est à moi !» En achevant ces triomphantes paroles, il saisit un marteau et en asséna un coup violent sur une vis qui représentait aux yeux de son imagination la caboche ou la tête de Joseph Ouillette. Cela fait, il poussa un long éclat de rire, dont tressaillit Mademoiselle Miggs même dans sa lointaine cuisine, et plongeant sa tête dans un bol rempli d'eau, il eut recours à l'essuie-main placé en dedans de la porte du cabinet et s'en servit à la fois pour étouffer ses sentiments et sécher sa figure. Joe, inconsolable et abattu, mais plein de courage pourtant, en quittant la maison du serrurier, se dirigea de son mieux vers la bûche tortue et demanda là son ami, le sergent. Celui-ci, qui ne s'attendait guère à le voir, le reçut à bras ouverts. 5 minutes après son arrivée à cette taverne, il était enrôlé parmi les braves défenseurs de son pays natal. Et au bout d'une demi-heure, on le régalait à souper d'un plat fumant de tripes bouillies aux oignons. Préparé, comme le lui assura plus d'une fois son nouvel ami, par l'ordre express de sa très sacrée majesté, le roi. Ce mets lui sembla fort savoureux après son long jeûne, il y fit donc grand honneur, et quand il l'eut accompagné des divers toasts d'un fidèle sujet envers son prince et sa patrie, on le conduisit à une paillasse dans un grenier à foin au-dessus de l'écurie, et on l'y enferma pour la nuit. Le lendemain, grâce aux soins obligeants de son martial ami, il trouva son chapeau décoré de plusieurs rubans bigarrés qui lui donnaient un air coquet, en compagnie de cet officier et de 3 autres militaires nouvellement enrôlés, si bien enrubannés comme lui que sous ce nuage flottant on ne pouvait distinguer que 3 souliers, une botte et un habit et demi. Il alla vers le bord du fleuve. Là, ils furent rejoints par un caporal et 4 héros de plus, dont 2 étaient ivres et tapageurs et les 2 autres sobres et repentants, mais ayant chacun, comme Joe, son bâton poudreux et son paquet au bout. La société s'embarqua sur un bateau de passage en destination pour Gravesend, d'où on devait aller pédestrement à Chatham. Le vent les favorisait, et ils eurent bientôt laissé Londres derrière eux. Ce n'était plus qu'un brouillard sombre, le fantôme d'un géant dans les airs.
Chapitre 32. Un malheur, dit le proverbe, ne vient jamais seul. On ne peut douter en effet que les tribulations ne soient excessivement collectives de leur nature, et qu'elles ne prennent plaisir à voler par bandes pour aller de là se percher selon leurs caprices sur la tête de quelque pauvre diable, jusqu'à ce qu'elles ne lui laissent plus sur le crâne 1 pouce de libre, sans faire seulement attention à d'autres qui offriraient à la plante de leurs pieds d'aussi bonnes places de repos, mais qu'elles s'obstinent à ne pas voir. Il arriva peut-être qu'une volée de tribulations planant sur Londres et épiant Joseph Ouillette sans pouvoir le trouver, fondirent à tout hasard sur le premier jeune homme qui leur tomba sous la main pour s'y abattre. Quoi qu'il en soit, il est positif que, le jour même du départ de Joe, un essaim de tribulations fit autour des oreilles d'Edward Chester un tel bourdonnement, un tel tintamarre de ses ailes qu'il en étourdit cette infortunée victime. C'était le soir, il était juste 8 heures, quand lui et son père,
en face du vin et du dessert qu'on venait de placer devant eux, furent laissés seuls pour la première fois de la journée. Ils avaient dîné ensemble, mais une tierce personne avait été présente pendant tout le repas et jusqu'au moment où ils s'étaient rencontrés à table, ils ne s'étaient point vus depuis la soirée précédente. Édouard était réservé et silencieux, M. Chester était plus gai que de coutume, mais ne se souciant pas, à ce qu'il semblait, d'engager la conversation avec quelqu'un d'une humeur si différente, il donnait cours à la légèreté de la sienne en sourire et en regard scintillant, sans faire d'ailleurs aucun frais pour attirer l'attention de son fils. Ils restèrent ainsi quelque temps, le père étendu sur un sofa avec son air accoutumé de gracieuse négligence, le fils assis en face de lui, les yeux baissés, évidemment préoccupé de pensées et d'ennuis pénibles. « Mon cher Édouard, dit enfin M. Chester avec un rire des plus attrayants, n'étendez pas votre influence assoupissante jusque sur le carafon. Faites au moins circuler cela pour empêcher que votre humeur ne reste trop stagnante. » Édouard s'excusa et lui passa le carafon. Puis il retomba dans son état de torpeur. « Vous avez tort de ne pas remplir votre verre, » dit M. Chester en tenant le sien devant la lumière. « Le vin pris modérément, sans excès, car cela rend laid, a mille influences agréables. » Il donne aux yeux plus de brillants, à la voix plus d'éclat, aux pensées plus de vivacité, à la conversation plus de piquant. Vous devriez en essayer, Ned. « Ah, père !» s'écria son fils. Si, « Mon bon garçon !» interrompit précipitamment le père en mettant son verre sur la table et haussant ses sourcils avec l'expression de physionomie d'un homme qui tressaille d'horreur. « Au nom du ciel, ne m'appelez pas de ce nom antique et suranné. Ayez quelques égards pour la délicatesse. Suis-je donc déjà tout gris, tout ridé? Marchais-je sur des béquilles? Ai-je perdu mes dents que vous adoptiez une pareille formule avec moi? Bon Dieu, quelle grossièreté !»« J'allais vous parler du fond de mon cœur, monsieur, répondit Édouard, avec toute la confiance qui devrait exister entre nous, et vous m'arrêtez tout court dès le début. » « Oh, de grâce, Ned, dit M. Chester en levant sa main délicate, comme pour implorer son fils, ne vous énoncez pas de cette monstrueuse façon. Vous allez me parler du fond de votre cœur. Ne savez-vous point que le cœur est une partie ingénieuse de notre mécanisme, le centre des vaisseaux sanguins et de toutes les choses de ce genre, qui n'a pas plus de rapport avec vos pensées et vos paroles que n'en ont vos genoux? Comment pouvez-vous être si vulgaire et si absurde? On doit laisser ces allusions anatomiques aux gentlemen de la profession médicale. Elles ne sont réellement pas agréables en société. Vous me surprenez tout à fait, Ned. Je sais bien que, selon vous, des cœurs blessés, des cœurs consolés, des cœurs aménagés, ce sont toutes chimères. Je connais vos principes à cet égard, monsieur, et je n'en parlerai plus, répliqua son fils. « Voici encore, dit M. Chester en buvant son vin à petits traits, que vous êtes dans l'erreur. Je dis nettement, au contraire, que ce ne sont point des chimères. Nous savons qu'il y en a. Les cœurs des animaux, des bœufs, des moutons et ainsi de suite sont mis sur le feu et dévorés, à ce qu'on m'a dit, par la basse classe avec un suprême délice. Des hommes sont quelquefois percés d'un coup de poignard au cœur, frappés d'une balle au cœur, mais c'est locution du fond du cœur ou jusqu'au cœur, cœur chaud et cœur froid, ou cœur brisé, ou qui est tout cœur, ou qui n'a pas de cœur. Pff, voilà ce que je dis qui n'a pas de sens, Ned. Sans doute, monsieur, répliqua son fils, voyant qu'il faisait une pause pour le laisser parler sans doute. Voilà la nièce de Herdel. « Le dernier objet de vos feux, dit M. Chester, comme s'il prenait le premier exemple venu pour éclaircir sa pensée, sans doute elle était tout cœur dans votre esprit, jadis. Maintenant elle n'a plus du tout de cœur. Pourtant, c'est la même personne, Ned, exactement la même. »« C'est une personne qui a changé, monsieur, cria Édouard en rougissant, et changé, je le crains, par des influences odieuses. » « Vous avez reçu là un congé assez froid, n'est-ce pas, pauvre Ned? Je vous disais l'autre soir que cela vous arriverait. Puis-je vous demander le casse-noisette? Il faut qu'il y ait eu autour d'elle quelque machination. Elle a été trompée de la manière la plus perfide, cria Édouard en se levant de table. Je ne croirai jamais que la connaissance de ma véritable position, dont elle recevait de moi la confidence, ait pu produire ce changement. Je sais qu'elle est assiégée et torturée, mais quoique notre engagement soit fini et rompu sans ressources, quoique je l'accuse d'avoir manqué de fermeté, de fidélité envers elle-même comme envers moi, je ne crois pas et je ne croirai jamais qu'aucun motif sordide, ni son propre mouvement, sa volonté libre et spontanée, lui ait dicté cette conduite. Jamais. « Vous me faites rougir, » répliqua gaiement son père, « de la folie de votre naturel, ou j'espère, mais il est vrai qu'on ne se connaît jamais soi-même, ou j'espère ardemment qu'il n'y a nul reflet du mien. Quant à ce qui regarde cette jeune demoiselle, elle a agi très naturellement et très convenablement, mon cher garçon. Elle a fait ce que vous-même vous aviez proposé de faire, à ce que m'apprend Erdel, à ce que je vous avais prédit. Il ne fallait pas pour cela grande sagacité qu'elle ferait indubitablement. Elle vous supposait riche, ou du moins assez riche, et elle découvre que vous êtes pauvre. Le mariage est un contrat civil. Les gens se marient pour améliorer leurs conditions en ce monde et pour y faire figure. C'est une affaire de maison et d'ameublement, de livrée, de domestique, d'équipage, et ainsi de suite. La demoiselle étant pauvre, et vous aussi, tout est dit. Cela ne vous regarde plus et vous n'avez rien à voir dans cette cérémonie. Je bois à sa santé, je la respecte et l'honore à cause de son extrême bon sens. Elle vous donne là un bon exemple à suivre. Remplissez votre verre, Ned. C'est un exemple, répliqua son fils, dont j'espère ne jamais profiter. Et si l'expérience des années grave de pareilles leçons dans... N'allez pas dire dans le cœur, interrompit son père. Dans des esprits que le monde et son hypocrisie ont gâtés, dit Édouard avec chaleur. Le ciel me préserve de les connaître. Allons, monsieur, répondit son père en se levant un peu sur le sofa et regardant droit devant lui. En voilà bien assez sur ce sujet. Rappelez-vous, s'il vous plaît, votre devoir, vos obligations morales, votre affection filiale et toutes les choses de ce genre auxquelles il est si délicieux et si charmant de réfléchir, ou vous vous en repentirez. Je ne me repentirai jamais de conserver le respect de moi-même, monsieur, dit Édouard. Pardonnez-moi si je vous déclare que je ne le sacrifierai pas à votre commandement, que je ne suivrai pas la route que vous voudriez me faire prendre pour me rendre complice de la part secrète que vous avez eue dans cette dernière séparation. » Le père se leva encore un peu plus et, le regardant comme par un sentiment de curiosité, pour voir s'il parlait sérieusement, il se laissa doucement glisser de nouveau en arrière et dit de la voix la plus calme, tout en croquant ses noisettes, « Édouard, mon père eut un fils, qui étant fou comme vous et comme vous entretenant des sentiments de désobéissance basse et vulgaire, fut déshérité et maudit un matin après déjeuner. La circonstance se représente ce soir à mon esprit avec une précision singulière dans mes souvenirs. Je me rappelle encore que j'étais en train de manger des petits pains au beurre avec de la marmelade. Il mena une misérable vie, le fils bien entendu, et mourut jeune. Il fut bien heureux sous tous les rapports, car il ne faisait guère honneur à la famille. C'est une triste circonstance, Édouard, quand un père se trouve dans la nécessité de recourir à des mesures si extrêmes. « Oui, sans doute, répliqua Édouard, et c'en est une fort triste aussi, quand un fils, offrant à son père son amour et ses devoirs dans le sens le meilleur et le plus vrai, se trouve repoussé à tout propos et forcé de désobéir. « Cher père, ajouta-t-il d'un air plus sérieux encore, quoique d'un ton plus doux, j'ai souvent réfléchi sur ce qui se passa entre nous lorsque nous discutâmes ce sujet pour la première fois. Souffrez que nous ayons ensemble une explication confidentielle, mais je dis une explication franche et sincère. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Comme je pressens ce qu'elle serait et que je ne peux manquer de le pressentir, Édouard, répondit froidement son père, je m'y refuse. Je ne saurais m'y prêter. Je suis sûr qu'elle me mettrait de mauvaise humeur, ce qui est une situation d'esprit que je ne peux pas endurer. Si vous vous proposez de faire obstacle à mes plans pour votre établissement dans la vie et pour la conservation de cette noblesse de race et de cet orgueil bienséant que notre famille a si longtemps soutenu, en un mot, si vous êtes résolu de suivre la route que vous vous tracez, suivez-la et emportez avec toute ma malédiction. J'en suis très fâché, mais il n'y a réellement pas d'alternative. La malédiction peut traverser vos lèvres, dit Édouard, mais ce ne sera qu'un vain souffle. Je ne crois pas qu'un homme ait le pouvoir, ici-bas, d'en attirer une sur son semblable et surtout sur son propre enfant. Pas plus que de faire tomber par ses conjurations impies une goutte d'eau ou un flocon de neige des nuages qui sont au-dessus de nous. Regardez-y à deux fois, monsieur.
Vous êtes si irreligieux, si irrespectueux, si horriblement profane, répondit son père en se tournant vers lui avec nonchalance et cassant une autre noisette, que je dois positivement vous interrompre ici. Il est tout à fait impossible que notre entretien continue sur ce ton-là. Si vous voulez bien sonner, le domestique va vous conduire jusqu'à la porte. Ne revenez plus sous ce toit, je vous en prie. Allez, monsieur, puisqu'il ne vous reste aucun sens moral, et allez au diable, c'est ce que je vous souhaite. Bonjour.
Édouard quitta la chambre sans un mot de plus, sans un regard, et tourna le dos à la maison, pour jamais. Le visage du père rougit et s'échauffa légèrement, mais il n'y eut pas la moindre altération dans ses manières lorsqu'il sonna de rechef et dit à son domestique, quand il fut entré, « Pic, si ce gentleman qui vient de sortir, pardon, monsieur Édouard, y en avait-il donc ici plus d'un, balourd, que vous me faites cette question ? Si ce gentleman envoyait prendre sa garde-robe, vous la lui donneriez, vous entendez ? S'il se présentait lui-même, n'importe quand, je n'y suis pas. Vous le lui direz comme ça ? Et vous fermerez la porte. » Ainsi l'on chuchota bientôt à la ronde que M. Chester était très malheureux d'avoir un fils qui lui causait beaucoup de peine et de chagrin. Les bonnes gens qui l'entendirent et le répétèrent s'émerveillèrent d'autant plus de son égalité d'âme et de sa sérénité. « Quelle aimable nature il faut avoir, disait-il, pour montrer tant de calme après tant d'épreuves. » Et lorsqu'on prononçait le nom d'Édouard, la société secouait la tête et mettait son doigt sur sa lèvre. Elle soupirait, elle prenait son air grave. Et ceux qui avaient des fils de l'âge de ce jeune homme, dans un accès de pieuse colère et de vertueuse indignation, lui souhaitaient la mort comme une expiation due à la piété filiale. Et ce n'est pas là ce qui empêcha le monde d'aller son petit train pendant 5 ans dont cette histoire ne parle pas.